Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour Nathalie Barge pour vous présenter Le Monde aujourd'hui en compagnie de Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition du 29 août 2014, les groupes armés du nord du Mali se sont réunis à Ouagadougou en prélude aux négociations d'Alger le 1er septembre.
Il y a deux principes aujourd'hui qui sont acceptés par les mouvements. Le principe de l'intégrité territoriale du Mali et la laïcité. Ça c'est un acquis. Maintenant, pour nous, tout le reste est négociable parce que pour nous, la paix n'a pas de prix.
Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la coalition du peuple de l'Azawad. Report de la date du baccalauréat en Centrafrique. Sur plus de 9000 inscrits à l'examen, un seul musulman.
Il y en a qui sont encore dans la ville et qui ne se sont pas inscrits. C'est à eux de dire pourquoi ils ne se sont pas inscrits.
Mamat Yacoub, directeur des examens et concours. Les États-Unis ont annoncé le lancement des premiers essais sur les humains d'un vaccin contre l'Ebola. Et Washington tente de mettre sur pied une coalition internationale pour faire face à la menace des militants de l'État islamique en Syrie et en Irak. Mais avant de développer ces titres et d'autres sujets d'actualité, voici le journal.
En République centrafricaine, plusieurs ministres du nouveau gouvernement ignorent les consignes de boycott émises par les formations politico-militaires dont ils sont membres. Ce refus, disent-ils, est dû à la nécessité d'œuvrer pour la paix. La ministre de la Réconciliation nationale, Jeannette Détoit, mandatée par l'Alliance des forces démocratiques de la transition, qui lui a demandé de se désister, est entrée en fonction cette semaine.
Nous traversons une période très délicate. Nous n'avons pas encore réussi à rétablir la paix. Il n'est pas question aujourd'hui qu'on s'attarde sur des petites questions qu'on peut régler à l'amiable. Je vais travailler en tant que ministre de la Réconciliation nationale. Si mon parti sait que le pays a des problèmes et qu'il faille aller de l'avant, que de traîner des pas pour des petites considérations, je vais subir les conséquences.
Trois membres de la Séléka ont également défié le mot d'ordre de leur formation. Il s'agit du ministre délégué à l'élevage, Mahamat Yacoub Taïb, d'Abdallah Hassan Kader au poste des télécommunications et du ministre des Transports, Arnaud Djoubaï Abazen.
La fuite au Burkina Faso du président de l'Assemblée nationale du Niger, Hama Amadou, principale figure de l'opposition nigérienne, accentue la crise politique à Niamey. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
À la suite de la levée de son immunité parlementaire, Hama Amadou a préféré se réfugier au Burkina Faso, selon ses propres termes, sans attendre sa convocation par la justice, dans le cadre de l'affaire de trafic présumé de bébés. Le camp présidentiel l'accuse de fuir pour se soustraire à la justice. Ses partisans voient dans cette affaire un acharnement du pouvoir pour se défaire du principal opposant. Depuis le début de l'année, l'atmosphère politique est assez délétère à Niamey. L'État a alterné des arrestations et remises en liberté de syndicalistes, de journalistes et d'opposants. Six proches de Hama Amadou sont en prison depuis 3 mois. Ces 2 derniers mois, le pays a vécu au rythme des rebondissements de l'enquête sur un présumé trafic de bébés entre le Nigeria, le Bénin et le Niger. 18 personnes, dont la seconde épouse de Hama Amadou, ainsi que le ministre de l'Agriculture, Abdou Labo, sont actuellement derrière les barreaux.
La Somalie a saisi hier la Cour internationale de justice pour la démarcation de sa frontière maritime avec le Kenya dans l'océan Indien, revendiquant une zone riche en réserves de pétrole et de gaz. Jean-Roger Bion.
La Somalie et le Kenya se disputent plus de 100 000 km² au sein desquels Nairobi a accordé des permis d'exploitation pétrolière contestés par Mogadiscio. Après des négociations diplomatiques qui n'ont pas permis de résoudre le désaccord, Mogadiscio a demandé à la Cour de déterminer le tracé complet de la frontière maritime entre les deux pays. Il est également demandé à la Cour internationale de justice de déterminer la frontière au-delà des 200 miles marins, c'est-à-dire au-delà de la zone économique exclusive des deux pays. Le litige existe depuis plusieurs années, éloignant les investisseurs à cause du manque de clarté sur la propriété des réserves de pétrole et gaz. Le gouvernement de Mogadiscio, qui fait face à l'insurrection des islamistes Al-Shabaab, est présenté comme le meilleur espoir de paix. Les troupes kenyanes sont en Somalie depuis 2011 et participent à la force de l'Union africaine pour aider au retour à un état de droit qui y fait défaut depuis plus de 2 décennies.
Le Nigeria a lancé un ambitieux programme national de cartes d'identité électronique, notamment pour faciliter l'accès de la population aux services administratifs et financiers. Les détails avec Henri Francisque.
Goodluck Jonathan a reçu sa propre carte, dotée d'une puce électronique stockant des données biométriques comme la photo, les empreintes digitales, la signature électronique et un numéro d'identification unique. Tous les Nigériens à partir de 16 ans pourront disposer d'une telle carte. À terme, selon le président nigérian, celle-ci pourrait servir de permis de conduire, de carte d'assurance santé et être utilisée pour les impôts et les paiements. Mais les coupures d'électricité très fréquentes et les problèmes de connexion rendent difficiles les paiements électroniques. Le pays est également réputé pour les fraudes informatiques. Selon Mastercard, qui fournit la technologie, 13 millions de cartes seront disponibles dans une première phase, un chiffre qui devrait monter à 100 millions. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, compte 170 millions d'habitants.
L'ambassadeur de Guinée équatoriale aux États-Unis a des problèmes avec la justice américaine. La police du comté d'Arlington, près de Washington, soupçonne Ruben Maye Nswemangwe d'avoir frappé sa propre fille avec un pied de chaise en bois. Cependant, il reste en liberté en raison de son immunité diplomatique. Des détails avec Timothée Donangmaï.
À la suite d'un appel d'urgence en provenance de la résidence de l'ambassadeur équato-guinéen, les policiers rendus sur place ont constaté que sa fille adolescente souffrait d'une importante lacération à la tête et qu'elle présentait des ecchymoses et avait un œil tuméfié. Après interrogation des personnes présentes, les policiers ont déterminé que le principal suspect était l'ambassadeur équato-guinéen lui-même. Ils en ont informé le département d'État américain qui s'est dit profondément troublé par ces allégations d'agression. En général, lorsque des diplomates sont impliqués dans des activités criminelles présumées et que le bureau du procureur informe le département d'État qu'il engagerait des poursuites, n'eût été l'immunité diplomatique, le département d'État demande au pays du diplomate de lever son immunité afin qu'il soit jugé par la justice américaine. En cas de refus, le département d'État exige le départ du diplomate, a expliqué James Saki, la porte-parole du département d'État.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain a déclaré jeudi que les États-Unis poursuivent les frappes ciblées sur des bastions de l'État islamique en Irak, disant que ces raids ont détruit de nombreuses armes et autres équipements militaires. Barack Obama s'exprimait devant les journalistes à la Maison-Blanche quelques instants avant sa rencontre avec son équipe de sécurité nationale sur les crises en Irak et en Syrie. Soulignant ne pas avoir encore de stratégie quant à la lutte contre les islamistes en Syrie, il a dit que les militants de l'État islamique ont trouvé un refuge dans ce pays et que les forces syriennes ne peuvent pas accéder aux zones sous leur contrôle. M. Obama a déclaré que les forces américaines seules ne pouvaient pas faire face à la menace et que les pays de la région devaient travailler ensemble pour la contrer. La semaine dernière, le président américain a autorisé une surveillance aérienne sur les positions des militants de l'État islamique en Syrie.
Un Syrien accusé de complot contre les troupes américaines en Irak a été extradé vers les États-Unis. Les autorités disent que Ahmad Ibrahim Al-Ahmad a comparu pour la première fois devant un tribunal de l'Arizona. Il fait face à plusieurs accusations, dont la livraison de matériel à des terroristes. Al-Ahmad est accusé d'avoir fourni des composants de bombes entre 2005 et 2010 à un groupe d'insurgés irakiens, les Brigades de la Révolution de 1920. Selon les autorités, ce groupe a utilisé des engins explosifs improvisés contre les forces américaines. Le Syrien a été arrêté en Turquie en 2011, où il a été détenu jusqu'à son extradition vers les États-Unis mercredi. Son procès devrait commencer en octobre. Il encourt la prison à perpétuité s'il est reconnu coupable.
L'Organisation des Nations Unies a déclaré jeudi que 43 de ses soldats de la paix ont été capturés par un groupe armé sur la frontière avec la Syrie et Israël et que 81 autres soldats sont dans l'impossibilité de quitter leur position près du poste frontière. Des militants du front islamiste Al-Nusra ont pris d'assaut le poste frontière mercredi. Dans un communiqué, l'ONU a déclaré faire tout son possible pour obtenir la libération de ces soldats de la paix et rétablir la liberté de mouvement pour les autres. L'intensification des combats en Syrie entre les groupes rebelles, les extrémistes islamistes et les forces gouvernementales a parfois débordé sur la frontière avec des mortiers atterrissant près des positions de l'ONU sur le plateau du Golan sous contrôle israélien. Vous écoutez l'émission matinale de La Voix de l'Amérique, Le Monde aujourd'hui, Nathalie Barge en direct du Studio 13 à Washington. En Centrafrique, report des examens du baccalauréat qui devait avoir lieu lundi et mardi prochain. La nouvelle date sera annoncée très bientôt selon le directeur des examens et concours Mahamat Yacoub. À ce propos, nous lui avons demandé pourquoi il n'y avait qu'un seul musulman sur les 9435 inscrits au bac.
Vous n'êtes pas sans savoir que les musulmans ont eu des problèmes dans ce pays et que dans la capitale, il n'y a plus de musulmans à l'exception des six que vous maîtrisez comme moi. Donc, à ce titre, en réalité, on ne devait pas avoir de candidats musulmans. Donc, il y en a qui sont encore dans la ville et qui ne se sont pas inscrits, c'est à eux de dire pourquoi ils ne se sont pas inscrits.
Pour plus d'explications sur la quasi-absence de candidats musulmans au baccalauréat, voici un résident du PK5, dernier bastion musulman à Bangui. Dodo Saoudi répond aux questions de Félix Yepassis Zembro.
Tout ça, c'est la situation que nous avons traversée, qui a été dramatique. Et tous les musulmans qui étaient en classe d'examen et ceux qui ne sont pas dans des classes d'examen se sont enfuis tous pour aller à la frontière du Tchad, Cameroun, ou bien repartir dans les zones comme Bambari, Bria, où il n'y a pas d'école. C'est la même situation que nous avons connue ici au niveau du kilomètre 5, où il y a certains étudiants, certains élèves qui sont restés parce que les parents sont restés, mais qui ne pouvaient pas accéder à l'école. Donc, qui ont passé presque une année blanche. Nous, la communauté musulmane, nous sommes en train de faire un travail pour pouvoir faire revenir au pays tous nos parents qui se sont enfuis. Parce qu'il y a une paix qui commence à s'installer. Les gens ont compris dans les deux communautés que la guerre, ou bien ce que nous appelons la crise, n'est pas quelque chose de positif pour notre nation. Nous sommes en train de nous battre pour que nos parents la puissent revenir. Et comme ça, je pense que tous nos enfants qui sont en classe d'examen pourront passer les examens.
Donc, selon vous, ce report est une bonne chose dans la mesure où ça permettra aux étudiants musulmans de revenir et prendre part.
Oui, ce rapport est une bonne chose. Ce rapport est une bonne chose. Ça permettra à nos jeunes, à nos enfants, de pouvoir revenir et de passer ces examens qui leur ouvrira la porte de l'université.
Pour l'heure, qu'est-ce qui doit être fait concrètement au niveau des pouvoirs publics pour inciter ces jeunes à revenir, ces jeunes musulmans?
La présidence de la République, le gouvernement sont en train conjointement de mettre en place une politique pouvant faire revenir les Centrafricains chez eux. Et ça, c'est avec tous les musulmans qui sont restés à Bangui, qui essayent de véhiculer des messages de paix encourageants pour que nos frères et nos parents qui sont dehors puissent rentrer chez eux et puis pouvoir continuer leur vie. Au kilomètre 5, ces choses commencent à rentrer dans le normal parce qu'il y a et les chrétiens et les musulmans qui vivent ensemble et c'est le seul endroit où il y a vraiment une cohabitation. Je pense que d'ici peu, ça va continuer dans ce même sens et il y aura la paix pour tout le monde.
C'était Dodo Saoudi, un habitant de Bangui en Centrafrique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
La lutte contre le virus d'Ebola. Les autorités américaines ont annoncé jeudi le lancement des premiers essais sur les humains d'un vaccin pouvant prévenir cette fièvre hémorragique. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Ce vaccin expérimental est le fruit d'une collaboration entre l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses des États-Unis et la compagnie pharmaceutique GlaxoSmithKline. Les essais cliniques seront, dans un premier temps, limités et viseront à étudier la sécurité d'utilisation du vaccin. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a eu un impact sur les recherches, a révélé le Dr Anthony Fauci, chef de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Nous avons accéléré le calendrier d'expérimentation des vaccins contre l'Ebola que nous étions en train de développer depuis des années. Après une revue rapide du produit et du schéma d'essai clinique par la Food and Drug Administration, nous avons obtenu le feu vert. Selon le Dr Fauci, les essais porteront sur 20 personnes âgées de 18 à 50 ans et se dérouleront au Centre de recherche de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses de Bethesda près de Washington. Il s'agira notamment de déterminer si le vaccin expérimental provoque chez ces personnes une réponse immunitaire permettant d'en prédire l'efficacité. Les premiers essais sur les animaux ont permis de bien protéger des primates contre l'Ebola, a indiqué le docteur Anthony Fauci.
It is important to know that the Ebola gene contained in the investigational vaccine.
Il est important de savoir que le gène d'Ebola contenu dans ce vaccin expérimental ne provoquera pas l'infection chez l'individu sur qui il est injecté. Les volontaires seront divisés en deux groupes pour des essais à faible et forte dose. D'autres essais cliniques suivront en octobre ici aux États-Unis, mais aussi en Grande-Bretagne, au Mali et en Gambie.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. À présent, un mot sur la crise malienne. Sur la route d'Alger pour les discussions avec le gouvernement malien, les groupes politico-militaires du nord du Mali ont fait une halte à Ouagadougou afin de s'entendre et de s'unir pour parler d'une seule voix autour de la table de négociation le 1er septembre. Un reportage de Zoumana Wonogo, correspondant de la Voix de l'Amérique à Ouagadougou.
Depuis le déclenchement de la crise au nord Mali, les groupes politico-militaires y ont poussé comme des champignons et ce n'est pas toujours le parfait amour entre eux. Faut-il aller à la table des négociations en Algérie, en mosaïque ou en rang serré? La deuxième option a été retenue et a fait l'objet d'une rencontre de 96 heures sanctionnée par un communiqué final. Suivons les grands traits avec le professeur Ould Sidi Mohamed du MAA, Mouvement des Arabes de l'Azawad.
Les partis ont reconnu la légitimité de la lutte que mène le peuple de l'Azawad Nord-Mali pour jouir d'un statut spécifique conforme à ses réalités géographiques, économiques, sécuritaires, sociales et culturelles. Aussi, les partis sont convenus de l'arrêt des hostilités et toute forme de violence entre tous les fils de l'Azawad Nord-Mali et s'engagent à favoriser un climat de paix et à le consolider.
Pour aboutir à ce communiqué final, que ce fut dur. On écoute Ibrahim Kantao de la Coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance. Numéro 2, il s'en défend.
Si l'on veut être dans une logique d'une paix durable, d'une entente durable et définitive entre tous les mouvements, il était important qu'on prenne le temps de s'expliquer et de faire en sorte que chacun comprenne le sens du combat et que l'on s'engage définitivement vers une unité d'action. Avec la signature de cette déclaration, qui regroupe tous les mouvements, qui pour la première fois ont accepté de se mettre ensemble, moi je crois que c'est un événement important. Beaucoup pensaient qu'on n'allait pas le réussir.
Cette fois, de cette unité retrouvée des groupes armés que Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la coalition du peuple de l'Azawad CPA se projette dans les négociations en Algérie.
C'est essentiellement autour de ce qui pourrait être le statut des régions que nous appelons Azawad. C'est de ça que nous allons discuter à Alger. La forme de gouvernance qui va être adaptée et qui va être une réponse à nos spécificités culturelles, sociales, économiques et sécuritaires, c'est de ça que nous allons parler à Alger. Il y a deux principes aujourd'hui qui sont acceptés par les mouvements. Le principe de l'intégrité territoriale du Mali et la laïcité. Ça, c'est un acquis. Maintenant, pour nous, tout le reste est négociable parce que pour nous, la paix n'a pas de prix. Si c'est une large autonomie de l'Azawad qu'il faut pour que cette région connaisse et que ses fils vivent la paix, nous allons le chercher et nous le cherchons.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les États-Unis essayent de mettre sur pied une coalition internationale pour faire face à la menace des militants de l'État islamique en Syrie et en Irak. Des précisions avec Lionel Gaïma.
C'est ce qu'a annoncé la porte-parole du Département d'État américain. Cette coalition devrait inclure des pays d'Europe, du monde arabe et d'ailleurs qui pourraient participer à cet effort commun. Pour Jen Psaki, il y a différentes formes de contribution.
Il y a l'humanitaire, la diplomatie et le renseignement. Nous savons que cet effort va exiger une concentration et une participation active, non seulement des États-Unis, mais aussi d'autres pays à travers le monde. Et vous avez déjà vu les efforts de l'Australie, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de la Jordanie, de l'Arabie Saoudite, de la Grande-Bretagne et de bien d'autres qui ont fourni une assistance. Nous pensons que c'est un effort qu'il faut envisager sur le long terme.
Mercredi, Josh Earnest, le vis-à-vis de Jen Psaki à la Maison-Blanche, avait dit que le président Barack Obama et son équipe suivent de très près les efforts des militaires américains contre les combattants sunnites de l'État islamique en Irak. Mais, avait ajouté Josh Earnest, ces opérations ne constituent qu'un aspect d'une plus grande stratégie dont la création d'un gouvernement inclusif en Irak fait partie intégrante. Selon M. Earnest, Washington est en contact avec les gouvernements régionaux qui ont un intérêt évident dans les résultats de la lutte actuelle. Ils peuvent user de leur influence auprès des leaders des tribus sunnites dans l'ouest de l'Irak ou auprès des forces politiques modérées au sein de l'opposition syrienne pour faire face à la menace.
The United States is also in touch with our partners in Western Europe and around the globe.
Les États-Unis sont également en contact avec nos partenaires en Europe de l'Ouest et dans le monde pour impliquer la communauté internationale dans cet effort.
Le président Obama, a ajouté George Earnest, parle à des pays qui peuvent ou ont démontré une volonté de jouer un rôle constructif pour relever le défi. Il a cité l'annonce faite mardi par le chef du Pentagone, Chuck Hagel, sur les armes et le matériel fournis d'urgence aux Kurdes irakiens par sept pays européens, Grande-Bretagne, Canada, Albanie, Croatie, Danemark, Italie et France. Concernant la mort d'un second djihadiste américain dans des combats contre le front Jabhat al-Nusra dimanche, près de Alep en Syrie, Jen Psaki a déclaré mercredi que ne pouvait pas la confirmer encore. Douglas MacArthur McCain, un Américain de 33 ans, lui a été tué dans un accrochage avec l'opposition syrienne. Jen Psaki a rappelé qu'un ambassadeur américain a été nommé en mars pour mener un effort international visant à empêcher des combattants étrangers à se joindre aux djihadistes. Son collègue Josh Earnest estime que des milliers de ces combattants venus d'une cinquantaine de pays se battent aux côtés de l'État islamique en Syrie. Il s'agit dans beaucoup des cas d'individus détenteurs de passeports occidentaux et on craint qu'ils posent de sérieux risques à leur retour dans leur pays d'origine. Selon M. Earnest, le président Obama soulèvera la question avec ses homologues lors de la session annuelle de l'Assemblée générale le mois prochain.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Nathalie.
Alors en football, le match retour des playoffs de la Ligue Europa.
Oui, le FK Krasnodar a battu le Real Sociedad 3-0. Lyon a battu Astra Gyrgyu 1-0. 1-0 également pour Torino face à RNK Split. Même score pour Saint-Etienne face à Karabükspor. 6-0 pour l'Inter Milan face à Tarnan Kadarber. Et Borussia Mönchengladbach a écrasé le FC Sarajevo. Villarreal 4-0 face à FC Astana. Et enfin, Tottenham a écrasé l'AL Limassol 3-0.
Et le corps de l'attaquant camerounais Albert Ebossé a été transféré hier vers le Cameroun.
Oui, l'attaquant de la Jess Kabylie est décédé samedi après avoir été touché par un projectile. À la fin d'un match, une cérémonie de recueillement a été organisée à l'aéroport d'Alger, en présence notamment du ministre algérien des Sports, Mohamed Tami, des proches du footballeur arrivé mercredi en Algérie, des dirigeants de la JSK. La JSK a décidé de continuer à verser le salaire d'Ebossé à sa famille jusqu'à expiration de son contrat, alors que la Fédération nationale lui versera une indemnité de 100 000 euros.
Et en éliminatoire de la CAN 2015, Bagassi, le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Hervé Renard, a convoqué 26 joueurs.
Oui, les éléphants doivent affronter la Sierra Leone et ensuite le Cameroun. Avec la première liste d'Hervé Renard, les éléphants devront apprendre à se passer des anciens Kolo Touré et Didier Zokora, non retenus par le nouveau boss. Si le premier avait fait part de son désir de prendre du recul avec la sélection, le second avait réservé sa réponse. Place dans le secteur défensif à Lamine Koné de Lorient en Ligue 1 française et aux locaux Franck Kessié et Ousmane Ouattara.
Au Burkina Faso, on connaît également les 26.
Oui, le sélectionneur belge Paul Puit a publié sa liste des joueurs convoqués pour affronter le Lesotho le 6 septembre et l'Angola le 10 septembre 2014. Parmi les joueurs convoqués, on note le retour du capitaine Moumouni Dagano. Et il y a aussi de nouveaux joueurs comme Abdoul Meiker Yabré de Sessena, Yves Benoît Bationo de Parme en Italie et Mohamed Bayilou du Racing Club de Bobo-Dioulasso. Le défenseur Robert Sankara de Free State en Afrique du Sud fait également son retour. L'international Anthony Koura de Nîmes en France ne figure pas sur la liste des joueurs convoqués, convoités par plusieurs clubs dont le Standard de Liège. On apprend finalement qu'il restera à Nîmes en deuxième deux française pour la suite de la saison.
Merci beaucoup Bagassi pour cette page sportive. De la country music ce matin sur La Voix de l'Amérique avec Julia Shear pour son titre Shouldn't Have Run. La chanteuse américaine de 22 ans, elle a commencé à diffuser certaines de ses chansons sur YouTube à l'âge de 18 ans. Son travail a impressionné à tel point qu'il a obtenu près de 50 millions de vues, devenant le numéro 4 des vidéos les plus regardées. En 2011, elle était dans le groupe Caroline Conti, mais elle se concentre à présent sur des collaborations avec d'autres chanteurs et des projets en solo. Pour donner une idée du succès de l'étoile montante, sa page Facebook compte plus de 200 000 fans et sa chaîne sur YouTube a atteint plus de 350 000 abonnés. Voilà, c'est ainsi que s'achève le monde aujourd'hui. C'était Julia Shear, Should Have Run, qui chantait Should Have Run. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. Retrouvez-nous sur lavoixdelamérique.com et sur notre page Facebook. Bonne journée et très bon week-end.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.